Bonjour à chacun, chacune, à ceux que je n'ai pas salués. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin pour ouvrir la parole de Dieu ensemble. Alors j'espère que ma voix va tenir, sinon veuillez m'excuser. Si vous entendez pas bien au bout d'un moment derrière, faites-moi un petit peu comme ça. Voilà. Merci. J'aimerais commencer ce matin par vous poser une question. Qu'avez-vous vécu depuis Noël? Voilà, Noël n'est pas si loin. Hein, je sais pas si Noël n'est pas si loin. Et nous sommes repartis dans tellement d'activités, n'est-ce pas? Enfin, je parle aussi pour moi. Et du coup, les textes du jour, eh bien, vont nous inviter à refaire un petit break, nous poser, pour regarder qu'est-ce que nous avons fait depuis que nous avons annoncé la venue de Jésus, et en particulier la venue de Jésus comme lumière du monde. Alors il y avait à Noël beaucoup de lumière, hein, et c'était une grande joie. Et puis Jésus nous laisse, annonce qu'il est la lumière du monde, et veut être la lumière de notre vie. Voilà, et voilà. Qu'avons-nous fait depuis Noël de cette lumière? Donc, les textes du jour, eh bien, nous invitent à nous arrêter dans ce sens. Les textes du jour, donc, nous parlent de cette lumière, et on va revoir la prophétie d'Ésaïe. Et puis, cette lumière, eh bien, elle doit avoir des conséquences sur notre vie, sur notre sanctification, et sur notre vie de tous les jours, sur notre témoignage aussi. Nous allons voir cela ensemble. Est-ce que, donc, depuis Noël, ma joie a augmenté? À côtoyer le Christ. Est-ce que je laisse le Christ mettre sa lumière dans ma vie? Est-ce que j'écoute sa voix pour faire face aux traces d'ombre qu'il révèle dans ma vie? Est-ce que sa lumière est inspirante pour réguler mes relations ou pour orienter mes décisions? Est-ce que j'ai envie de partager cette lumière? Voilà quelques questions que nous allons se poser ce matin. Jésus est lumière du monde, mais est-ce que ça a eu des conséquences réelles dans notre vie depuis Noël? Donc je vous invite à écouter la lecture de quelques textes, donc quatre textes qui vont être assez courts. Tout d'abord, donc on est invité à relire ce texte d'Ésaïe. Mais il n'y aura pas pour toujours des ténèbres sur ce pays envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, le district des nations païennes. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira pour ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Et cette prophétie, voilà, va s'accomplir en Jésus-Christ, comme on va le voir. Le deuxième texte qui nous est proposé, c'est donc c'est incroyable de voir que même avant cette prophétie qui était en moins 800 avant Jésus-Christ, eh bien David dit: Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Il s'est déjà approprié cette lumière. Le troisième texte, c'est le passage donc dans Matthieu où Jésus commence son ministère. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il regagna la Galilée, mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'installer à Capernaum, une ville située au bord du lac, aux confins des territoires de Zabulon et Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait été annoncée. Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, et toi, Galilée des nations païennes. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Donc Jésus vient accomplir cette promesse d'Ésaïe. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant: Changez, hein, c'est le mot convertissez-vous, métanoïa, car le royaume des cieux s'est approché. Et ensuite, un jour qu'il marchait au bord de la Galilée, il vit deux frères, Simon qu'on appelle aussi Pierre et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Donc Jésus les appela, et aussitôt ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. Jésus faisait le tour de la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies, de toutes leurs infirmités. Et puis un dernier texte qui nous est proposé, c'est un exemple, un contre-exemple un petit peu de ce qui peut se passer dans les églises. C'est Paul donc qui écrit à la lettre, qui écrit à l'église de Corinthe. Et c'est donc dans un 1 Corinthiens 1, où il y a, comme on va le voir, des divisions. « Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis, en ayant une même conviction, une même façon de penser. » En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la division règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, pour Pierre. Ou encore, et moi, pour le Christ. Voilà, donc quatre lectures que nous allons voir ensemble à la lumière de notre Dieu. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes pour méditer ta parole et que nous puissions encore ce matin nous laisser interpeller par ton esprit pour comprendre oui, combien tu nous aimes, combien tu veux être la lumière dans nos vies, combien tu veux être le bon berger pour nous. Parce que tu as tout préparé pour une vie, en effet, de bonheur, de simplicité avec toi. Au nom de Jésus, amen. Donc, je vous propose un message en trois points. Le premier point, donc, qui va être Jésus, lumière du monde. Hein, on va reprendre rapidement ce point. Et ensuite, voir les conséquences dans les deux points suivants. Les conséquences, c'est ce changement que va impliquer la lumière dans nos vies. Et le troisième point, eh bien, c'est l'envoi. L'envoi comme disciple. Donc Jésus est la lumière du monde et il a commencé son ministère à Capernaum. Hein, il est allé s'installer à Capernaum, donc il a quitté Nazareth, il est monté un peu plus au nord-est et il est venu s'installer donc à Capernaum au bord du lac de Galilée, là-haut. Mais cette région, voilà, est très significative. Il s'est pas installé n'importe où. Il vient réaliser la prophétie d'Ésaïe. Il vient s'installer dans cette région qui avait été traumatisée, qui avait été sinistrée, parce que l'Assyrie, le peuple au nord, hein, avec sa capitale Ninive, avait souvent fait des incursions dans ce nord du pays et avait massacré, déporté, violé et amené leur propre Dieu dans cette partie nord du pays. Et on peut penser à Jonas qui avait été envoyé à Ninive justement pour aller dire voilà, vous avez un comportement qui ne plaît pas au Seigneur, repentez-vous, convertissez-vous sinon Dieu va intervenir. Et ce pays du nord s'était converti à ce moment-là. Mais voilà, il n'en reste pas moins que il y a des séquelles en tout cas en Israël. Et ce que l'on voit, donc, c'est que Jésus va aller là où, en fait, il y a le plus besoin, là où c'est le plus sinistré, le plus traumatisé. Il va au cœur des ténèbres, Hein, il commence son ministère au cœur des ténèbres pour être la lumière dans cette région-là. Et après, on va le voir, bien sûr, il va se déplacer partout en Israël. Donc, il ne commence pas son ministère en Israël. Il commence son ministère là. Et on sait que Jésus n'a pas choisi la simplicité. Hein, il est toujours allé vers les pauvres, vers les pécheurs, vers les rejetés, vers les femmes, vers les lépreux. Voilà. Et voilà, là, c'est encore un exemple de son amour, de sa consécration. Le texte d'Ésaïe nous dit que le peuple vivait dans les ténèbres. Et dans Matthieu, il est dit que le peuple, à cet endroit-là, quand Jésus donc est allé, le peuple était assis dans les ténèbres quand ils ont vu cette grande lumière. Donc c'est des termes là en hébreu et en grec qui nous disent que le peuple où Jésus va s'installer, c'est vraiment un peuple assis dans les ténèbres, imprégné de ténèbres, et un peuple de très varié aussi dans ses croyances. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Dieu prend l'initiative d'aller mettre de la lumière dans le monde. Hein. C'est une initiative de Dieu de venir, de s'incarner, de venir vraiment en personne amener de la lumière. Parce que l'être humain, eh bien, ne peut pas éclairer sa propre vie, ne peut pas comprendre par lui-même pourquoi il vit, comment vivre, qu'est-ce que ce monde, que faire dans ce monde, où il va. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, c'est de voir, voilà, c'est que Dieu ne va, Jésus, quand il va venir, ne va pas amener une nouvelle morale ou des idées lumineuses ou des éléments extérieurs. Il est lui-même la lumière. Hein, il est lui-même en personne la lumière. Et c'est donc une rencontre en fait entre des personnes qui vivent dans les ténèbres et une personne qui est pleinement lumière. Donc on peut bien penser que ça va pas être très facile pour Jésus. Mais voilà, il a choisi d'éclairer le monde. Jean Chrysostome disait ceci, « Le Christ commence là où la misère est la plus grande, afin que nul ne désespère de la miséricorde de Dieu. » Jean Calvin dit ceci, « Dieu ne choisit pas les lieux les plus honorables, mais ceux où sa grâce peut être reconnue comme pire miséricorde. » Comme pire, pure miséricorde, pardon. Voilà, ceci pour dire que aucune même de nos ténèbres, eh bien, ne va faire peur à Jésus. Aucun de nos péchés ne peut lui faire peur ou renoncer à ce qu'il vienne nous côtoyer. Voilà. Il nous aime tellement que quoi qu'on ait fait, hein, il vient, il s'incarne, il vient à notre rencontre. Alors que peut-on tirer comme conclusion de ce premier point? Eh bien, tout d'abord, voilà, c'est de savoir que la prophétie s'est réalisée. Ça, c'est incroyable. Moins 800 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe annonce qu'une lumière va apparaître dans cette région-là. Eh bien, 800 années après, Jésus va venir dans cette région-là. Voilà, Dieu, en fait, est le maître du temps, de l'histoire. Et voilà, c'est très rassurant pour nous. Il décline ce qu'il a prévu. Il connaît toutes choses et il le fait. Toutes ses promesses s'accomplissent. La deuxième chose, c'est que Jésus va être la lumière du monde dans cette région par son exemple, sa parole, son amour, toutes les miracles qu'il a fait. Et il veut être aussi cette lumière dans notre propre vie. C'est une chose de se dire, voilà, Jésus est la lumière du monde. Et c'est autre chose, ensuite, de se dire, Jésus est la lumière de ma vie. Ou Jésus soit la lumière de ma vie. Hein, comme l'a dit David. Accepter Jésus comme la sa propre lumière, de sa propre vie, c'est ça qui va faire le changement. C'est ça qui va transformer les ténèbres de notre vie, de nos cœurs, de nos circonstances. Parce que la lumière, ça va forcément changer. Changer notre quotidien, c'est ce qu'on va voir. Voilà, si on n'y a pas pensé à inviter Jésus comme lumière de notre propre vie, eh bien faisons-le, c'est très simple. Dire seulement, Seigneur, Jésus, sois la lumière de ma vie. Alors pourquoi Dieu veut nous éclairer? Parce que, ben on l'a vu un petit peu, hein, mais parce que Dieu est Dieu, parce qu'il l'a choisi, parce qu'il nous aime d'un amour immense, parce qu'il est la compassion de notre vie terrestre, parce qu'il connaît nos limites, nos cris, nos recherches, parce que c'est lui seul qui a une vue d'ensemble sur notre monde, sur notre temps, sur notre espace, parce qu'il nous voit en chemin, parce que nous avons de la valeur pour lui et qu'il veut prendre soin de nous. Voilà, c'est magnifique, hein. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et j'aimerais illustrer un petit peu ce point rapidement. Voilà, j'ai amené avec moi un billet. Et un billet, est-ce qu'il a de la valeur? Oui. C'est écrit dessus. Bon, là, c'est un billet de 10 euros, vous aurez reconnu. Voilà, il a de la valeur et c'est comme ça. Et nous, voilà, aussi, nous avons de la valeur et c'est comme ça. C'est Dieu qui l'a décidé. Donc, si ce billet, voilà, je le froisse, je le mets dans des poches sales, ou s'il passe à la machine de la vie, voilà. Est-ce que ce billet a toujours de la valeur? Oui. Ah. Si ce billet, voilà, il est froissé, il est maltraité, il est sali, voilà, s'il est par terre, s'il est dans la boue, il vit dans les ténèbres, il est là où il devrait pas être. Est-ce que ce billet a toujours de la valeur? Oui. Voilà. Nous avons de la valeur parce que Dieu l'a décidé. Et quoi que nous faisons, voilà, même si c'est regrettable de faire des fois des choses ou de nous retrouver dans des situations dramatiques, eh bien, nous avons toujours de la valeur aux yeux de Dieu. Et toujours, il viendra nous chercher. Toujours, il viendra nous éclairer. Parce que, voilà, il a décidé. Il sera toujours à nos côtés pour nous éclairer. Parce qu'il nous aime. Alors, voilà, demandons-lui de venir nous éclairer. Et il va le faire. Le deuxième point, c'est que cette lumière, quand elle va venir nous éclairer, elle va avoir une conséquence. C'est que time to change. Le temps va venir, le temps est venu du changement. Hein, la lumière, elle va provoquer en elle-même le changement. Il y a quelqu'un qui disait « La conversion n'est pas l'entrée dans le royaume par nos efforts, mais l'ajustement de toute notre vie à la royauté déjà présente. Hein? » Les premières paroles publiques de Jésus sont brèves et sans détour. « Convertissez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Donc, nous avons bien compris que en côtoyant cette lumière, eh bien, des choses vont changer. Et l'invitation de Jésus, eh bien, c'est de quitter une manière de vivre sans Dieu pour nous rapprocher de celui qui est la vie. Se convertir, c'est se tourner de ce qui passe vers celui qui demeure. Ça, c'est Origène qui disait ça. Jésus veut être comme un GPS, un GPS qui va nous dire erreur de route, faire demi-tour. Et le GPS, eh bien, il ne va pas nous culpabiliser, il ne nous engueule pas. Enfin, moi, mon GPS ne me culpabilise pas et m'engueule pas, heureusement. Et ben, Jésus, c'est pareil, hein. Dans sa bienveillance, il va simplement dire, voilà, là, il y a erreur. Là, il y a, fais demi-tour. Voilà. Fais demi-tour. Et ce que j'aime beaucoup dans les paroles de Jésus, justement, c'est quand il est dit « Convertissez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». Voilà, Jésus s'est approché, hein, en tant que roi de ce royaume, Jésus s'est approché. Donc du coup, nous pouvons nous convertir et changer, et nous ajuster à ce royaume. Voilà, il n'y a pas d'effort surhumain à faire. Il n'y a pas. Jésus dit « Mon joug est léger hein ». Mon joug est léger. Ce qu'il demande, c'est léger, c'est qu'il va nous accompagner. Hein, parce qu'à lumière du royaume, les ajustements vont être plus faciles. Et voilà, c'est comme quand il dit, par exemple, « Venez manger, car tout est prêt ». Voilà, c'est facile. Ou « Pardonnez, car je vous ai déjà tout pardonné ». Des fois, c'est plus difficile. Ou « Soyez saints, car je suis saint ». Voilà. Ou « N'ayez pas peur, car je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Voilà. En fait, ce que Dieu ordonne, il le donne. Voilà. Hein? Et moi, mon rôle, en fait, c'est simplement de coopérer à ce changement, d'écouter sa voix, de coopérer. Peut-être vous vous souvenez dans la lecture de Romains 12, verset 2, quand il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer hein, par Dieu qui va renouveler votre intelligence. » Et le verbe là, c'est « soyez transformés ». C'est un verbe au passif, c'est-à-dire que nous-mêmes, eh bien, nous aurons du mal à nous transformer, à nous changer. Mais voilà, éclairés par le royaume, éclairés par les lois du royaume, eh bien, nous pouvons, Dieu nous aide à, voilà, à nous aligner, à nous ajuster tranquillement. Donc, l'effort, c'est, si on peut dire, c'est juste de coopérer avec sa voix, de coopérer jour après jour, il va nous dire des petites choses, coopérer. Et un exemple intéressant et frappant voilà, autour de Noël, hein, c'est l'exemple de Marie. L'ange vient lui dire, voilà mon plan. J'ai besoin de toi, tu vas être enceinte, tu vas porter l'enfant. Et Marie dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Voilà, simplement coopérer, parce que voilà, Dieu sait ce qu'il fait. Coopérer, même si voilà, on ne comprend pas tout, mais dire, oui, je veux accepter ma place, je veux accepter ton plan. Et les choses vont se faire tranquillement. Dans le quatrième texte que nous avons lu, voilà, c'était l'église de Corinthe. Et dans cet exemple hein, qui nous est donné, eh bien, l'église a entendu l'évangile, et pourtant, il n'y a pas eu, voilà, les ajustements nécessaires à la vie de groupe, puisqu'il y a eu des divisions. Quand on reçoit la grâce, quand on, eh bien, il y a des ajustements à faire, et on peut plus être dans l'orgueil, on peut plus être dans la rivalité, comme était là l'église de Corinthe. Les gens étaient pour Apollos, qui était venu, les autres étaient de Paul, les autres étaient de Pierre, les autres se disaient de Christ. Voilà, il y avait de la division dans l'église. Alors, dans l'église, il peut y avoir des discussions, voilà, des disputes de mots, enfin, il peut y avoir, hein, le temps de se mettre d'accord. Mais, au bout d'un moment, voilà, on peut pas laisser les divisions. Et la division, c'est un manque d'ajustement. Ce que dit Paul ici. Il leur dit que, voilà, ce sont des petits enfants dans la foi qui n'ont pas encore fait, voilà, assez d'ajustements à la lumière du royaume. Des petits enfants. Ils sont appelés à grandir. Et il va leur enseigner, voilà, que, ben, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Et puis, peu importe qui plante, qui arrose, ce qui compte, c'est que Dieu fait croître. Et puis, que celui qui plante, celui qui arrose, sont tous égaux. Hein, on est tous égaux dans l'église. Quel que soit notre service, on est tous égaux, aimés de Dieu pareil. Et puis, que chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Voilà. Donc, là, bon, c'est un exemple, hein. Un exemple d'où il y a des fois, dans la Bible, et c'est intéressant, où il n'y a pas toujours de ce réajustement. Hein, et donc, on voit les problèmes que ça peut occasionner. Les réajustements, c'est aussi tous les jours. Hein, tous les jours. On n'est pas converti, on se dit on est converti une fois, non. En fait, Voilà, l'éclairage du royaume, c'est tous les jours que Jésus nous appelle à faire des petits pas. Alors des fois on dit oh mais j'ai pas le temps, oh plus tard quand je serai plus prête, oh et puis non je veux pas être trop dans la Bible ou oh moi je crois de ma propre manière, j'ai peur de ce que ça va me coûter, moi je veux garder le contrôle. Hein, on a tous un peu des excuses parfois d'éviter les de côtoyer cette lumière, pourtant qui est tellement bienveillante, et de nous ajuster. Voilà. Mais en tout cas, Dieu va respecter notre temps, Dieu va respecter ben, notre façon de faire. Mais en tout cas, lui, il va pas partir. Il va toujours être cette lumière à nos côtés, en tout cas. C'est magnifique. Alors, autant coopérer. Le troisième point et dernier point, voilà, c'est que donc cette lumière, on voit qu'elle est là. On voit que cette lumière, eh bien, elle nous invite à nous convertir, à changer. Et le troisième point, c'est que cette lumière, elle nous appelle et nous envoie. Hein? Le Christ, en appelant, ne demande pas ce que nous sommes capables de faire, mais il promet de nous rendre capables de ce qu'il ordonne. Donc, voilà, la vie chrétienne, c'est pas seulement recevoir Christ et puis être heureux, hein, c'est aussi être aller dans ce monde, hein, être à la suite, une petite lumière. Voilà, ça c'est des fois plus difficile hein, de comprendre que voilà, nous avons cette mission réellement, que Dieu y tient. La lumière n'est pas statique, hein, Jésus nous a donné son exemple. Jésus n'est pas statique. Donc on le voit dans Matthieu 4, il va se déplacer, il va rencontrer des hommes, des pêcheurs, et il va les mettre en mouvement. Et ses disciples, voilà, c'est très courageux de leur part, c'est qu'ils vont abandonner leur filet, ils vont abandonner leur sécurité, et ils vont partir à la suite de Jésus. Et ils ne savent pas où ils vont. Hein, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais ça veut dire quoi être des pêcheurs d'hommes? Est-ce qu'ils étaient qualifiés à être des pêcheurs d'hommes? Non, hein. Voilà. Donc c'est en fait Dieu nous propose une vie d'aventure avec lui. Hein. Abraham aussi a eu cet appel. Par où? Je te donnerai un pays. Ah oui, lequel? Hein. Il y a un petit peu c'est beau, je trouve voilà. Cet appel, Dieu sait ce qu'il veut faire de notre vie, et voilà, si on coopère à nouveau, eh bien, il va nous conduire dans cette vie, à son image. Donc, pas besoin de compétences particulières, pas besoin de capacités initiales, et on le voit quand on étudie le livre des Actes. Hein, quand, voilà, ils sont dans la chambre haute. Et ils savent pas ce qui va leur arriver, juste l'Esprit Saint va venir. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint? Et ils reçoivent, et puis ils avancent, et puis ils prient ensemble, et puis Dieu ouvre des portes, Dieu ferme des portes. Voilà, c'est incroyable, la vie par la foi, la vie par la foi. Donc la conversion, c'est enfin la lumière appelle à une transformation intérieure et aussi à une mission, à une vocation. Voilà, c'est pas seulement juste de croire, mais ça va être de suivre et pas suivre une idée, une idéologie, le protestantisme. C'est voilà, suivre une personne, le Christ. C'est ça qui est encourageant, qui est rassurant. On suit une personne. Voilà. Dans l'alliance que Dieu nous propose, voilà, il y a une double grâce. Il y a la grâce d'avoir été choisi, d'avoir été appelé, et puis la grâce de participer au plan de Dieu, à la mission. Et si on se souvient bien, Israël, hein, peuple élu, devait aussi ensuite être lumière des nations. Mais ils l'ont pas fait. Et du coup, c'est à l'Église de le faire, d'être cette lumière des nations. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, de voilà, comment nous y prendre personnellement pour aller de l'avant, pour témoigner, comment Dieu nous forme, comment Dieu nous parle. y aller avec nos dons, les uns avec les autres, avec la prière, beaucoup de choses. Mais seulement ce matin, j'aimerais juste vous laisser voilà, une première marche, si on veut, voilà. Peut-être est-ce que le matin, vous seriez d'accord de vous dire, Seigneur, voilà, ce matin, et tous les matins, hein, si vous voulez, Seigneur, mets quelqu'un aujourd'hui dans ma journée pour que je puisse être témoin de toi à cette personne. Et viens mettre tes paroles dans ma bouche. Hein, parce que souvent, on dit, non, non, moi, je ne saurais pas ce que je veux dire. Mais voilà. Et Dieu donne ce qu'il ordonne et il va mettre les paroles dans nos bouches. Voilà. Est-ce que nous voulons coopérer comme ça, d'être un petit témoin tous les jours? Dimanche passé, j'ai rencontré une amie chrétienne australienne et elle est prof d'anglais au CIV. Je ne sais pas si vous connaissez ce gros lycée international à Sophia Antipolis, qui est tellement exigeant parce qu'il y a des cours en plusieurs langues et il y a le bac international. Donc elle est prof là-bas et sa fille aussi est étudiante là-bas. Et il y a un tel stress des notes, des résultats, de la compétition. Et elle se dit comment être une petite lumière dans ce lycée. Et du coup, quand elle va le matin avec sa fille dans la voiture, elles prient toutes les deux et puis elles disent, voilà, Seigneur, nous te remettons cette journée, que nous soyons seulement des témoins. Alors elles se disent de rester en paix, quoi qu'il va arriver, rester en paix et être un outil d'encouragement. Parce que là-bas, il n'y a pas tellement d'encouragement. Hein, c'est voilà. Et donc elles persévèrent comme ça. Mais voilà. Donc voilà, c'est une petite marche qu'elles ont décidé de faire tous les matins et elles sont contentes, elles sont en paix avec ça, que le Seigneur l'est. Et chacun de nous, voilà, dans notre travail, voilà, dans nos loisirs, voilà, peut-être se dire en y allant, Seigneur, que je sois petite lumière, que je puisse témoigner aussi, parce que c'est ce que tu m'appelles à faire. Peut-être on peut s'y préparer aussi, savoir quelles phrases on pourrait dire. Voilà, coopérer. Est-ce que je veux coopérer aussi dans ce sens? Alors pour conclure lier la boucle, pardon, j'ai trop avancé. Vas-y, je te laisse faire. J'aimerais donc revenir aux questions que j'avais posées en début de méditation. Est-ce que ma joie a augmenté à côtoyer le Christ depuis Noël? Alors moi, j'espère que oui, hein, que cette lumière a pu venir dans vos vies depuis Noël. Et voilà, si ma joie donc n'est pas au rendez-vous, voilà, se demander peut-être pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait obstacle? Hein? Qu'est-ce qui fait obstacle? Est-ce que je laisse Christ mettre de la lumière dans ma vie? Est-ce que je prends un peu le temps de lire ma Bible, de prier? De lire un petit passage sur des applications. Voilà. La lumière, elle est à côté. Il faut la laisser juste, hein, enlever les obstacles et la laisser venir nous parler. Voilà. Jésus est là. Laissons-le voir la prière. Est-ce que j'écoute sa voix pour faire face aux traces d'ombre qu'il révèle dans ma vie? Est-ce que depuis Noël, il y a une attitude, une habitude, quelque chose qui et que j'ai changé. Eric a parlé il y a 15 jours de rousse pétée, de hein, ça c'est une habitude peut-être qu'on a, qu'on peut, je pense, arrêter de faire hein, avec l'aide de Christ. Mais chacun, voilà, nous avons nos petites traces d'ombre. Hein, quand il y a la lumière, il y a forcément de l'ombre qui apparaît. Qu'est-ce que le Seigneur aujourd'hui me demande de changer? Voilà, tranquillement, hein, sans culpabilité, sans voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il me montre? Est-ce que sa lumière m'a inspiré pour réguler mes relations, pour orienter mes décisions? Est-ce que depuis notre lumière, j'ai voilà, reçu une petite révélation qui m'a aidée dans des relations. Est-ce que j'ai pu pardonner? Est-ce que j'ai envie d'aller me réconcilier avec quelqu'un? Voilà. Ça, la lumière, elle vient aussi nous aider. Et pareil pour nos décisions. Est-ce que j'ai pris des décisions? Comment j'ai pris mes décisions? Est-ce que, voilà, Christ est venu m'éclairer dans mes décisions? Ou lui demander de le faire, sinon nous avons à en prendre. Et la dernière question, est-ce que j'ai envie de partager cette lumière? Est-ce que je veux tirer à partir de maintenant, comme c'était un petit bilan qu'on faisait ce matin, est-ce que j'ai coopéré depuis Noël? Est-ce que j'ai envie de coopérer? Est-ce que j'ai compassion des gens qui sont dans les ténèbres? Voilà. Et me dire avec mes moyens, avec ce que Dieu me donne, voilà, je peux un petit peu être une lumière dans ce monde. Alors, la bonne nouvelle, comme je l'ai dit, c'est que Christ ne va pas éteindre sa lumière. Christ ne va pas partir pour nous accompagner. Et sa lumière est capable de réellement éclairer nos vies, nos églises, un monde en quête de repères. Alors, pas d'inquiétude à avoir, il est là. Amen.
Amen.